nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Claudel, un diplomate en Chine, de 1895 à 1909. Comme Rabelais et Du Bellay, Chateaubriand ou Stendhal, Giraudoux et Saint-Jean-Perse, ses contemporains, Paul Claudel s'inscrit dans la longue lignée des écrivains diplomates. Rien a priori ne l'y destine vraiment. Comme il est trop jeune pour passer le concours des langues orientales, Claudel s'inscrit à celui des affaires étrangères. Et en 1890, il est reçu premier de sa promotion. Contrairement à Chateaubriand, il entre humblement dans la carrière. Aucune tradition familiale ne le précède. Il est le premier et le seul ambassadeur de sa famille. Il n'est que le fils génial d'un petit employé aux hypothèques, sans grand soutien mondain ou politique, hormis peut-être une recommandation du célèbre sculpteur Auguste Rodin. En février 1890, il est nommé attaché au Quai d'Orsay, qu'il décrira avec humour et nostalgie en 1937 dans un article du Figaro.
Du temps de ma jeunesse, on se chauffait au bois du haut en bas de l'illustre bâtiment. Et c'est autour d'un feu de bois, vers les 5 heures du soir, avant le coup de feu de la signature, que l'on se réunissait pour prendre le thé et pour commenter les événements. Il n'était pas inutile de maintenir cette bouche dévorante et toujours ouverte pour y jeter les papiers inutiles et quelquefois dangereux. Et puis la diplomatie au feu de bois, c'était quelque chose comme la cuisine au beurre. C'est au sein de ces vénérables traditions que, reçu au concours, par je ne sais quel miracle, je fus initié dans un sentiment profond de mon indignité personnelle au mystère du protocole. J'appris les formats de papier appropriés à la dignité des correspondants, les formules d'interpellation, de réclame et de courtoisie n'eurent plus pour moi de secret. On m'enseigna cette haute écriture qui remplit les vélins historiques et dont la tradition remonte au secrétaire du grand roi. De parfaite jusqu'à haute, je déclinai sans erreur tous les degrés de la considération. La plume d'oie grinçait encore sur les grains de poudre bleue pour le vulgaire et de poudre d'or pour les ambassadeurs. Le vulgaire buvard qui pâlit indécemment l'écriture était strictement interdit. Depuis, tout a changé. La machine à écrire a exterminé l'art magnifique de la calligraphie que, pour mon usage personnel, je me suis appliqué à maintenir, surtout quand j'eus fait la découverte du pinceau chinois. Le protocole a disparu. Personne n'écrit à personne. On rend compte à ce personnage synthétique et abstrait qui signe « diplomate » et dès lors ce ton de confidence et de conversation personnelle qui faisait le charme des anciens messages, a disparu.
En février 1893, il est nommé vice-consul aux États-Unis. Après 2 années qu'il a ressenties comme dures et opprimantes, il se tourne vers l'Orient. Influencé par sa sœur Camille, il souhaite être nommé au Japon, mais tous les postes sont déjà pourvus. En 1895, il part donc pour la Chine, dont il ne connaît ni la culture, ni la langue. Il a 27 ans lorsqu'il arrive à Shanghai le 14 juillet. Il en a 41 lorsqu'il quitte définitivement la Chine en 1909. Ce séjour de 14 années, entrecoupé de retours en France et d'un voyage au Japon, sera le plus long de sa carrière diplomatique. En fonction des missions et des postes qui lui sont confiés, Shanghai, Fuzhou, Hankou, c'est d'abord la Chine du Sud qu'il explore, puis celle du Nord, à Pékin et à Tianjin, à partir de 1906. Le recueil « Connaissances de l'Est », composé de prose poétique rédigée entre juillet 1895 et avril 1905, est un véritable journal de voyage consacré essentiellement à la Chine et parfois au Japon, où Paul Claudel a passé 1 mois au printemps 1898. Voici comment il décrit, à la fin du XIXe siècle, une ville chinoise la nuit.
« La ville forme un tout cohérent. » Un gâteau industrieux communiquant avec lui-même dont toutes ses parties. foré comme une fourmilière. Quand la nuit vient, chacun se barricade. Le jour, il n'y a pas de porte. Je veux dire pas de porte qu'on ferme. La porte n'a point ici de fonction officielle. Ce n'est qu'une ouverture façonnée. Pas de mur qui, par quelques fissures, ne puisse livrer passage à un être leste et mince. Les larges rues nécessaires aux mouvements généraux et sommaires d'une vie simplifiée et automatique ne sauraient se retrouver ici. Ce ne sont que des couloirs collecteurs, des passages ménagers. Une fumerie d'opium, le marché aux prostituées, les derniers remplissant le cadre de mon souvenir. La fumerie est un vaste vaisseau, vide de toute la hauteur de ses deux étages, qui superposent leurs terrasses intérieures. La demeure est remplie d'une fumée bleue. On aspire une odeur de marron brûlé. C'est un parfum profond, puissant, macéré, chargé comme un coup de gong. Fumigation sépulcrale. Elle établit entre notre air et le songe une atmosphère moyenne que le client de ses mystères inhale. On voit à travers le brouillard les feux des petites lampes à opium, telles que les âmes des fumeurs qui vont arriver plus nombreux. Maintenant, il est trop tôt. Sur des trois escabeaux, la tête casquée de fleurs et de perles, vêtue d'amples blouses de soie et de larges pantalons brodés, immobile, et les mains sur les genoux, les prostituées, telles que des bêtes à la foire, attendent dans la rue, dans le pêle-mêle et la poussée des passants. À côté des mères, et vêtues comme elles, aussi immobiles, des petites filles sont assises sur le même banc. Derrière, un brûlot de pétrole éclaire l'ouverture de l'escalier. Je passe, et j'emporte le souvenir d'une vie touffue, naïve, désordonnée, d'une cité à la fois ouverte et remplie, maison unique d'une famille multipliée. Maintenant j'ai vu la ville d'autrefois, alors que libre de courants généraux, l'homme habitait son essaim dans un désordre naïf, et c'est en effet de tout le passé que j'eus l'éblouissement de sortir. Quand, dans le tohu-bohu des brouettes et des chaises à porteurs, au milieu des lépreux et des convulsionnaires franchissant la double poterne, je vis éclater les lampes électriques de la concession.
Quand Paul Claudel arrive en Chine en 1895, à la charnière du 19e et du 20e siècle, le contexte dans lequel il vit est la résultante des deux guerres de l'opium qui ont opposé les Chinois et les Britanniques. En 1842, la première guerre de l'opium a eu pour conséquence d'obliger la Chine à ouvrir 5 de ses ports, dont Canton et Shanghai, au libre commerce étranger. L'île de Hong Kong, que Claudel décrit au début de Connaissance de l'Est, est alors cédée à l'Angleterre. La seconde guerre de l'opium, lancée par les Britanniques en 1856 et soutenue par la France, oblige la Chine à ouvrir 11 nouveaux ports au commerce occidental. Les résidents étrangers sont autorisés à habiter dans les ports ouverts et dans les concessions. Les concessions sont des quartiers résidentiels, soustraits à l'autorité régulière chinoise et administrés par les communautés marchandes étrangères sous le contrôle des consuls. À Tianjin, par exemple, en 1906, Claudel cumulera les fonctions de consul, de président du conseil municipal et de président du tribunal consulaire, comme les statuts de l'époque l'y autorisaient. Il se plaindra d'ailleurs de cette lourde charge dans une région qui ne lui plaisait guère. En 1843, sous l'influence de la France, la Chine accepte de tolérer l'activité des missionnaires, interdite depuis le XVIIIe siècle. Après la Seconde Guerre de l'opium, elle leur permet de résider à l'intérieur du pays. Ce sont les travaux de ces missionnaires qui permettront à Claudel de s'initier à la culture chinoise. On assiste alors à un renouveau des études sinologiques en France. Les jésuites traduisent les classiques chinois en latin et en français. Claudel est allé d'emblée vers la pensée de Lao Tzu, et le taoïsme marquera durablement sa pensée, même dans le domaine religieux. De ses lectures, l'écrivain tirera un drame curieux, le repos du septième jour, qui se passe dans l'Antiquité chinoise. Mais la Chine de ses livres est avant tout la Chine vivante, la Chine quotidienne qu'il parcourt et où il travaille en tant que diplomate. À cette période, la souveraineté chinoise est fortement affaiblie comme le prestige de la dynastie Mandchou. De 1850 à 1870, des soulèvements populaires se sont produits dans de nombreuses provinces. La plus importante est la révolte paysanne et nationale des Taiping, liquidée par le pouvoir impérial en 1864 avec l'appui des Occidentaux. Contrairement aux historiens actuels, en 1936 encore, Paul Claudel n'inscrit pas ce mouvement dans une histoire nationale ou internationale de la Chine. Il n'y voit aucun signe précurseur d'une révolution. Un peu à la manière de Montesquieu, il constate surtout l'importance de la géographie, le résultat des famines et le caractère hasardeux des phénomènes de la nature. Voici comment il décrivait les insurrections chinoises dans « Sous le signe du dragon ».
C'est seulement quand la récolte vient à manquer que se produisent de grands déplacements de population qui, en somme, aboutissent rarement à causer des désordres. On meurt en masse et tout est fini. Il y faut d'autres causes connexes. La facilité d'immenses troupeaux à fuir devant quelques excitateurs et cette étrange hystérie spéciale au peuple asiatique dont je parlerai plus tard. Encore ces grandes séditions ou pilleries ont élu jusqu'ici le caractère hasardeux des phénomènes de la nature. On dirait de ces dessins irréguliers que forme un incendie dans une steppe, allumé par une flammèche fortuite. Rien n'est plus curieux à cet égard que l'histoire de l'insurrection des Taipings qui s'est propagée sans aucun plan préconçu, d'un bout à l'autre de la Chine, s'éteignant ici, se rallumant ailleurs, ici consumant toute une province, là s'arrêtant devant un village résolu. Une poignée de révoltés s'échappe de Hankeu assiégé, et allant tout droit devant eux, sans aucune opposition, ils mettent le feu à toute la Chine du Nord, presque jusqu'à la capitale, d'où une saute du vent, par fortune, les éloigne. Les mêmes traits se sont reproduits au moment du mouvement des boxers.
Le mouvement des boxers, qui doit son nom à la boxe sacrée que pratiquaient ses adeptes, se déclenche aux alentours de 1900. Les premières victimes en sont les missionnaires, avec lesquels les paysans sont le plus directement en contact. L'hostilité populaire à leur égard n'est pas nouvelle. Mais de 1898 à 1900, elle prend une ampleur inégalée. La cour impériale doit évacuer Pékin, qu'assiègent les révoltés. Ceux-ci sont dispersés par une armée internationale sous commandement allemand. Ces violentes réactions populaires sont en partie une réponse à la montée des puissances occidentales en Chine. En 1884 a éclaté la guerre franco-chinoise, conséquence directe de l'intervention française au Tonkin. Formose est occupée par la France qui obtient des avantages économiques dans la Chine du Sud-Ouest. Le Japon, en 1895, remporte une victoire rapide et brutale sur la Chine. Une des premières missions importantes de Paul Claudel, vice-consul de France à Fuzhou, s'inscrit dans ce contexte. L'arsenal de Fuzhou, situé sur le fleuve Min, avait été inauguré en 1869. Les Français s'étaient engagés à construire des navires et à former le personnel chinois capable de prendre la relève. Mais la guerre de 1884 aboutit à la destruction de l'arsenal. En 1895, avoir une flotte utilisable contre les Japonais semble nécessaire aux Chinois. Claudel entame des négociations en 1896, en s'efforçant de ménager les susceptibilités des autorités locales rivales. Il aboutit assez rapidement à un accord. Mais l'affaire étant d'importance, le vice-consul débutant est écarté et doit partir pour une autre affaire à Hankeu. Dans les années qui suivent, les financements ne sont pas suffisants. En 1904, le nouveau gouverneur chinois de l'arsenal se révèle hostile à la France. Et l'entreprise végète. Dans le livre sur la Chine préparé en 1904, sans doute en collaboration avec le secrétaire du Quai d'Orsay Philippe Berthelot, Claudel regrette que la politique européenne, et en particulier française, n'ait pas pu contrebalancer la percée du Japon en Chine. Entre 1896 et 1902, les grandes puissances industrielles veulent, à l'exemple du Japon, obtenir de nouveaux avantages économiques. Elles se font reconnaître le droit de fonder des usines dans une région particulière d'où leurs concurrents sont exclus. Ce sont les zones d'influence. Le Nord-Est, la Mandchourie, au bénéfice de la Russie, qui en écarte le Japon en 1896, la péninsule du Shandong, en faveur de l'Allemagne, le bassin moyen du Yangtze, où s'installe l'Angleterre, et les trois provinces du Sud-Ouest pour la France, déjà maîtresse du Tonkin. Ces investissements financiers sont protégés par des bases militaires permanentes établies sur le sol chinois. Les puissances occidentales veulent aussi circuler plus facilement à travers la Chine et ouvrir des lignes de chemin de fer. En 1897, Paul Claudel négocie la construction du chemin de fer reliant Hankou à la capitale Pékin et mène l'affaire à bien. Lorsque Claudel revient en Chine en 1905, il peut emprunter cette ligne pour rejoindre son poste. Les négociations qu'il a menées ont bénéficié d'une période politique favorable, celle des 100 jours du jeune empereur Guangxi. Guangxi est un enfant. Les hommes politiques chinois qui gouvernent en son nom sont arrivés au pouvoir car ils se sont montrés plus efficaces contre les grandes insurrections que la dynastie Mandchou, incarnée par l'impératrice douairière Cui et les ultra-conservateurs. Les dirigeants de ce mouvement, appelé Yangwu, organisent des bureaux de traduction d'ouvrages scientifiques et techniques occidentaux, créent des arsenaux modernes, comme celui auquel Claudel a travaillé, fondent les premières usines textiles, les premières mines modernes et les premières sociétés chinoises de navigation à vapeur. On trouve la trace de ces préoccupations dans les dossiers de documentation que le diplomate Paul Claudel se constitue sur la navigation à vapeur, sur l'importation des étoffes de laine. Claudel pense alors que la France doit se démarquer des autres projets européens qui privilégient la navigation sur les grands fleuves chinois. Il souhaite voir s'ouvrir une ligne nord-sud qui détournerait les échanges commerciaux vers l'Indochine. Son rêve est d'établir une ligne de chemin de fer française qui relierait le Tonkin à Vladivostok en Russie, en passant par les ports chinois du sud, une sorte de transsibérien franco-mandchou. Mais les jeunes intellectuels chinois, alors au pouvoir, s'attire à la fois l'hostilité des ultra-conservateurs, protégés par l'impératrice douairière Cui, et celle des réformateurs modérés, car ils souhaitent une occidentalisation radicale de la Chine. Face à cette double opposition, ils ne disposent d'aucun appui populaire. Trois mois seulement après leur arrivée au pouvoir, à l'instigation de la cour, l'armée met fin à l'expérience des 100 jours. L'atmosphère si particulière et insurrectionnelle de la Chine de cette époque, celle des diplomates et des hommes d'affaires, se retrouve dans une des pièces les plus célèbres de Paul Claudel, Partage du Midi, qui est directement inspirée par sa vie professionnelle et sentimentale en Chine. Bien des éléments apparaissent aussi dans le célèbre Soulier de satin publié en 1924. Ni les réformateurs de 1898, ni les boxeurs n'ont réussi. Les uns avaient un programme de progrès, mais manquaient de toute base populaire. Les autres étaient liés au peuple, mais regardait vers le passé. Le mouvement républicain, avec Sun Yat-sen, va s'efforcer de dépasser cette contradiction. Claudel, qui pourtant a rencontré Sun Yat-sen lors d'un de ses voyages, comme le montre son journal intime, n'a pas pressenti le succès spectaculaire de la révolution d'octobre 1911. Ses œuvres et sa correspondance sont surtout un témoignage très riche sur la vie quotidienne de la Chine d'avant la révolution. Il fut surtout le témoin actif et sans beaucoup d'illusions, de l'agonie du vieil empire du milieu. En 1908, le jeune empereur meurt mystérieusement. Le lendemain, l'impératrice Cui décède à son tour. Dans la cité interdite, Claudel a assisté aux funérailles du dernier empereur. Dans Choses de Chine, il évoque ce souvenir et rend hommage à ce pays qu'il aimait tout particulièrement.
Je fus présenté à la vieille impératrice et au dernier empereur. J'assistai à ces doubles funérailles qui furent celles de l'antique monarchie. Je retrouve dans ma mémoire les archers, les chameaux défilant avec une peau de martre suspendue à la mâchoire, la distribution aux démons funèbres d'une monnaie illusoire. Je revois le gros Yuan Shikai cheminant derrière le catafalque le bâton de deuil à la main, dans une houppelande de toile grossière. Comme j'ai aimé la Chine. Il y a ainsi des pays que l'on accepte, que l'on épouse, que l'on adopte d'un seul coup comme une femme, comme s'ils avaient été faits pour nous, et nous pour eux. Cette Chine, à l'état de friture perpétuelle, grouillante, désordonnée, anarchique, avec sa saleté épique, ses mendiants, ses lépreux, toutes ses tripes à l'air, mais aussi avec cet enthousiasme de vie et de mouvement, je l'ai absorbé d'un seul coup. Je m'y suis plongé avec délice, avec émerveillement, avec une approbation intégrale, aucune objection à formuler. Je m'y sentais comme un poisson dans l'eau. Ce qui me semblait particulièrement délicieux, c'était cette spontanéité, cette ébullition sans contrainte, cette activité ingénieuse et naïve, tous ces petits métiers charmants, cette présence universelle de la famille et de la communauté, et aussi, faut-il le dire, ce sentiment partout de surnaturel, ces temples, ces tombeaux, ces humbles petits sanctuaires sous un arbre où le culte se compose d'une baguette d'encens et d'un morceau de papier, tout cela m'était comestible. Je me suis toujours senti, je l'avoue, beaucoup plus à mon aise au milieu des païens qu'avec ceux qu'on nous engage à appeler, je ne sais pourquoi, nos frères séparés. Spontanés, et je dis tout à l'heure, oui, la Chine était un pays spontané, aussi intensément et spécifiquement humain qu'une fourmilière peut être formique. Elle devait tout à une espèce de sagesse vitale et innée enracinée dans le goût et dans l'instinct. Quelle impression éblouissante ! J'ai gardé de l'ancien canton cette ville sublime de bois doré, aujourd'hui détruite par les révolutionnaires, là comme partout ennemie de tout art et de toute beauté. La Chine, telle qu'elle existait alors, était le pays le plus vraiment et le plus pratiquement libre que j'ai jamais connu, c'est-à-dire libre pour les choses immédiates qui, seules après tout, ont de l'importance.
C'est sur ces paroles de Paul Claudel que nous nous quitterons. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Chine à l'époque où Claudel était diplomate, vous pouvez vous reporter à Connaissance de l'Est, à Sous le signe du dragon, paru dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Nous vous signalons aussi la publication en 2005 de la correspondance consulaire de Paul Claudel, 1896-1909, collection des annales littéraires aux presses universitaires de Franche-Comté. Merci à Fernand Guyot d'avoir prêté sa voix à Paul Claudel, en espérant vous revoir bientôt.